Bonjour à tous, vous écoutez... Bonjour à tous, vous écoutez Ouvre-la, une émission vraiment géniale. Comme d'habitude, j'anime l'émission en compagnie de mon père.
Bonjour.
En direct des studios de Cause Commune. Vous nous écoutez peut-être en FM 93.1 ou en DAB si vous êtes en direct le dernier dimanche du mois à 14h. Ou sinon...
Et bien si la date n'est pas la bonne, c'est que vous écoutez une rediffusion ou peut-être un podcast sur notre site internet, le site internet de la radio cause-commune.fm.
Voilà. Alors je sais, c'est la rentrée pour beaucoup, ça fait déjà un moment que ça a repris. Pour les élèves les plus malchanceux, c'est demain que ça recommence. Et pour ma part, j'ai encore 3-4 jours de répit que je vais passer à faire la liste des affaires de cours qui me restent de l'année dernière. Jusque-là, que des trucs inutiles, des stylos verts, un compas et puis mes cours d'espagnol.
Mais les cours d'espagnol, c'est pas inutile du tout, dis donc.
Ah, ceux de l'année dernière.
Faut pas faire l'impasse.
C'est ceux de l'année dernière, j'ai pas fait grand-chose, honnêtement.
Ah bah,
aujourd'hui, on vous parle de la rentrée et des nouveautés qui arrivent à l'école. Ça va de l'utilisation de l'IA à l'école par les profs à l'ajout d'une nouvelle épreuve au bac. Et puis on finira par discuter un peu de l'émission de cette année, tout ça, tout ça. Mais d'abord, j'avais envie de vous parler d'une musicienne que j'aime beaucoup, qui d'ailleurs est celle qui a fait le générique de l'émission, en fait. Sophie Xéon. Alors, Sophie Xéon, elle est née le 17 septembre 86 et dès l'enfance, elle est plongée dans la musique électronique grâce à son père. D'ailleurs, en parallèle de ses études où elle fait de la sculpture, elle est DJ pour des mariages, elle est dans un groupe de punk qui s'appelle Motherland et en général, elle est vraiment baignée dans la musique depuis toujours. Elle va commencer sa carrière musicale solo en 2013 avec le single Beep qui la met sur le devant de la scène électro-underground. Et en 2015, elle sort un premier projet qui s'appelle Product, qui est à moitié pop électro et à moitié expérimental, qui est fait quasi exclusivement avec une machine qui s'appelle l'Electron Monomachine, qui génère que des ondes très simples en fait, très basiques, et qui du coup permet de créer un son très brut, souvent c'est écrit comme soit métallique, soit caoutchouteux, avec des chansons comme Love, L.O.V.E, qui est en fait un très long buzz qui ressemble quasiment à un truc d'insecte, entrecoupé d'une voix métallique qui épelle L.O.V.E, ou M.S.M.S.M., qui est... un morceau un peu expérimental et où moi la première fois que je l'écoutais j'avais vraiment l'impression que c'était une espèce de fête d'insectes avec vraiment bruit très quasiment pas humain quoi, parce que tout est fait à la machine et c'est quelque chose qui est dans son travail au début, elle met vraiment en avant de ne rien faire, de faire tout à l'ordinateur.
Ah bah là c'est même un synthétiseur hein. On est sur des synthétiseurs un peu des années 80.
Ouais.
Avec l'électron monomachine là, dont tu m'as parlé, c'est un synthétiseur, un séquenceur, bon, pour ceux qui connaissent.
C'est ça, avec...
qui veulent être très précis.
Toute une collection de musique fait uniquement grâce à cet instrument. Mm-hmm. Et de temps en temps avec un peu de voix, mais c'est vraiment garder le plus petit possible. Elle va travailler avec des stars comme Madonna, Charlie XCX, le rappeur Vince Staples, et en 2017, elle sort le single Pony Boy, qui est accompagné d'un clip qui fait en fait office de coming out. Sophie, c'est une femme trans, et ce sera reflété dans son premier vrai album, Oil of Every Pearls and Inside. C'est pour moi un des meilleurs albums de pop électro et en fait un des meilleurs albums du monde entier quoi. Pour plein de raisons, au niveau du son, elle va vraiment garder ce côté expérimental très violent dans les premières chansons, Pony Boy et Face Shopping avec des bruits métalliques, d'ailleurs Face Shopping qu'on va écouter après. avec ces bruits vraiment fouettants, des grosses basses d'électro qui en fait sont la base des musiques de rave par exemple, et des grosses voix déformées presque robotiques, et tout un choix des accords qui rend cette émotion en fait inquiétant vraiment. Elle va créer des émotions qui sont pas, c'est pas que de la musique pop où on danse, des fois ça va être aussi quelque chose limite pour faire peur. Mais elle va aussi se détacher de ce truc-là d'expérimental bourrin qui était déjà là dans ses projets d'avant. À la fois en utilisant cette fois une voix féminine, assez émotionnelle, et puis des morceaux très allongés dans le temps avec des pulsations très lentes et carrément un morceau d'ambiante dans l'album qui s'appelle Pretending. Au niveau des thèmes abordés par l'album, il y a une trame qui, enfin pour le coup, c'est assez clair. Le mouvement, ça commence par It's Okay to Cry, une chanson qui où Sophie se met à nu assez littéralement dans le clip, et où juste elle va utiliser beaucoup sa voix et des rythmes qui là sont très très basiques, en parlant qui sonne assez cliché en fait la première fois qu'on l'écoute, et moi, je m'en suis aperçu en lisant les paroles, notamment, où elle parle d'une espèce de relation amoureuse, mais qui est très imparfaite, où quand on l'écoute, on se rend compte que c'est pas une chanson d'amour. On ne sait pas vraiment si c'est une vraie chanson d'amour ou si c'est quelque chose un peu limite pour se moquer, quoi. L'album, il va continuer avec Pony Boy et Face Shopping, du coup, des chansons pas très abstraites, du coup, de l'électro-violente sur... l'image de soi, la chirurgie esthétique et la sexualité, en prenant un langage très matérialiste et limite satirique en fait. Face Shopping, du coup, qu'on va écouter juste après, ça parle littéralement d'acheter son visage grâce à la chirurgie esthétique, avec ce truc qu'on sait pas vraiment si c'est une dénonciation, alors que pourtant c'est une femme trans qui a fait de la chirurgie esthétique pour ressembler plus à une femme.
Ok.
Ça continue avec des morceaux qui montrent plus d'émotions et de doutes, de manière très littérale, par exemple dans le titre de Not OK, ou dans Infatuation et Is It Cold in the Water, où il y a des interrogations personnelles, sans qu'on sache vraiment à qui elles sont adressées, et Pretending, qui est une chanson sans parole, un morceau d'ambiance, qui commence très très doux et qui au final va commencer à perdre son calme et à limite s'exciter, quoi. Avec finalement une espèce de libération dans les deux dernières chansons. Immaterial, qui est le générique de l'émission d'ailleurs, avec vraiment cette pop explosive, la libération I can't be held down, donc rien ne peut me retenir. Avec Sophie qui se libère un peu de tout ce qui peut la retenir, son genre, avec être immatériel littéralement. Elle se libère aussi de l'amour. Il y a le dernier couplet, il est sur le fait de n'avoir besoin, de pas avoir besoin de l'amour, et puis de son corps. La dernière chanson, Whole New World / Pretend World, c'est la conclusion de l'album dans un long double morceau de 9 minutes. Avec de l'électro qui tabasse, qui reprend le style du début de l'album et de ses projets précédents, mais avec des paroles vraiment robotiques et déformées, inquiétantes vraiment, mais plus abstraites, avec cette perspective d'un nouveau monde, d'une nouvelle interprétation, et qui reprend moins le côté satirique, et donc c'est des morceaux qui sont aussi un peu plus crus, parce qu'à l'époque Sophie elle fait partie d'un collectif qui s'appelle PC Music, qui fait de la pop expérimentale, et qui à l'époque va beaucoup se moquer des morceaux de pop donc des années 2010, en poussant à l'extrême tout ce qui est en se moquant des relations amoureuses, et c'est dans cet album donc Oil of Every Pearl and Inside où elle va un peu se libérer de ça et s'autoriser aussi à faire des musiques moins troll, limite, quoi.
D'accord.
Parce que Sophie, typiquement, elle est connue pour un projet qui s'appelle Cutie, où ça a été l'invention d'une marque fictive, d'une boisson, avec ce truc un peu de dénonciation du capitalisme. Et là, c'est...
De la consommation, peut-être.
Non, et puis vraiment, ce truc rendre la musique acquis au peuple, etc.
D'accord.
Ou vraiment dans ce mouvement underground qui va être une libération queer, qui va être une libération. Enfin, c'est tout dans le mouvement des années 2010 qu'on a vu d'une espèce de libération de la pop traditionnelle et en fait la création de nouveaux genres ou de sous-genres plutôt qu'on appelait notamment l'hyper-pop aujourd'hui.
D'accord.
Voilà. Et pour moi, tout ça fait que c'est un des meilleurs, c'est un de mes albums préférés et j'avais en fait envie d'en parler aussi. J'ai envie de parler de Sophie plus généralement. C'est une artiste qui a toujours été assez engagée, notamment dans la cause queer, mais aussi dans tout ce qui était l'humanitaire international. Un peu comme aujourd'hui où il y a certains artistes qui sont engagés pour la Palestine, bah, il y avait déjà la même chose à son niveau. Et par contre, il y a une fin en fait à tout ça. En 2021, Sophie, elle décède. Mmh. Elle était montée regarder la lune sur son toit et a glissé. Ou en tout cas, c'est la version que sa partenaire a donnée. Et aujourd'hui, c'est son frère qui garde son héritage, qui a publié un album posthume qui s'appelle Sophie. Et encore aujourd'hui, il y a certains morceaux qui sortent de temps en temps, qui avaient été faits de son vivant et qui ont été soit finis, soit soit juste poursuivis, quoi.
D'accord. Donc il y a un album qui est sorti récemment, là ?
Il y a un album qui est sorti en 2024.
D'accord.
Donc, 3 ans après sa mort. Et il y a une espèce de réédition de son premier projet, Products, qui est sorti cette année, qui rajoutait notamment les morceaux qui étaient jusque-là disponibles que sur les éditions de certains vinyles. Morceaux un peu secrets, qui là sont... ils étaient déjà connus, trouvables sur Internet, mais là, ils sont révélés au grand public, officiellement, voilà. Et aujourd'hui, Sophie, c'est une artiste où on retrouve de ses traces chez plein de notes. En fait, c'était une productrice assez populaire à l'époque dans le milieu de la pop. Donc, comme j'ai dit, avec Madonna, Charlie XCX, il y avait un morceau qui n'est jamais sorti, mais avec Lady Gaga aussi. Mais aussi, elle a travaillé avec des rappeurs. Tout un projet qui a été fait avec Kendrick Lamar, par exemple. Entre autres, et du coup, encore aujourd'hui, c'est une artiste qui a vraiment eu un impact en apportant un peu ce côté expérimental dans une musique plus classique, en fait.
D'accord.
Voilà. Et ça me fait vraiment plaisir d'en parler, et en plus, ça me permet de jouer un autre morceau d'elle que Immaterial qu'on a dans le générique. Donc on va faire une pause musicale, on va jouer Face Shopping du coup de Sophie.
My face is the front of shop. My face is the real shop front. My shop is the face I front. I'm real when I shop my face.
Thank you.
Vous êtes toujours à l'écoute de Ouvre-la sur Cause Commune 93.1 FM. Ouvre-la, bah, c'est une émission présentée par Solal, voilà. Qui est un lycéen. Et donc là, tu nous as présenté l'artiste Sophie, avec un titre effectivement qui est qui va lorgner du côté de l'expérimental.
Bah, expérimental électro, ouais, assez bourrin, Face Shopping du coup, de l'album Oil of Every Pearls and Inside, qui d'ailleurs a aussi un très long album remix qui expérimente encore plus avec chacun des morceaux, et qui est assez intéressant en fait. On va continuer avec le sujet principal de l'émission.
La rentrée.
C'est ça, la rentrée scolaire.
La rentrée des classes. Est-ce que tu te souviens de la poésie que t'as appris pour la rentrée des classes?
Absolument. Je me souviens que j'en ai appris une.
C'est la rentrée des classes. Tous les enfants sont joyeux.
Je sais que j'ai dû apprendre une poésie pour... Mais c'était en CP, ça?
Oui.
Et je sais que j'ai dû apprendre une poésie pour la rentrée. Et j'ai aucune idée de ce que c'est. Et je pense que je suis assez heureux de ne pas m'en souvenir. Pourquoi? Parce que bah, pour aujourd'hui, la rentrée des classes pour les lycéens, notamment, c'est pas apprendre une poésie. En général, qu'est-ce que ça veut dire? Je parlais notamment de mon lycée et de comment ça s'organise. Ouais. En gros, chaque niveau, donc seconde, première et terminale, a un jour où les élèves vont finir l'après-midi, ils vont découvrir leur classe, leurs professeurs principaux, et puis après, leurs emplois du temps aussi, bref, tout ce qui est les trucs de base, les papiers à remplir, d'assurance, tout ça. On nous donne tout ça le premier jour avec un temps dédié. Et puis après, il y a un moment qui me fascine. On, par groupe de 3 ou 4 classes, on est amené dans l'amphithéâtre et on assiste au discours de notre proviseur et de ses adjoints et de temps en temps des CPE. Et personnellement, c'est toujours un moment qui me fascine parce qu'ils vont nous présenter... ils vont toujours commencer par nous rappeler pourquoi on est là, comme si on ne le savait pas. On va nous rappeler qu'on est là pour travailler, que...
Ils vous donnent les consignes.
Ils nous donnent les consignes. Bah, ils nous montrent les résultats du bac de l'année dernière. Ah oui, regardez, là, on a eu 95% de réussite au bac avant le rattrapage, donc il faut travailler pour garder ça. Hein. Et on nous montre ça comme si ça devait nous motiver, en plus. Puis on nous présente les nouveautés, notamment du règlement de l'année. On rappelle les bases sur des choses qui n'ont pas forcément été respectées les années précédentes. Et puis après, c'est en fonction de, en général, des paniques morales qu'il y a eu l'année précédente. Je me souviens à la fois de ma seconde et de ma première. Au début d'année, on nous parle forcément de la tenue des filles. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous en souvenez sûrement, hein, mais c'était... Tout ce qui était panique morale sur l'abaya. Je me souviens d'un moment assez lunaire où mon proviseur adjoint s'adresse aux meufs qui sont voilées au lycée, qui dit « Mesdames qui portez le voile, un voile sur vos cheveux, c'est un voile, mais sur vos épaules aussi, ça reste un voile. » Et ce qui, moi, m'avait fait un peu bugger, mais surtout beaucoup rire, parce que c'est limite un... Enfin, c'est une annonce un peu limite islamophobe, parce que, en fait, avoir un foulard sur les épaules, est-ce que c'est avouer être musulmane? Pour eux, ça a l'air de l'être seulement... Enfin, c'est en fonction de la couleur de peau, quoi. Est-ce que t'as l'air musulmane? Et en général, ça va être ça. On a et bon, pour ce qui est tenue, on en a déjà parlé dans l'émission. C'est quasiment toujours adressé aux filles. Et puis après, on nous parle souvent de laïcité puisqu'on est dans un lycée où avec une majorité d'élèves croyants. Donc, on nous parle de laïcité, d'à quel point c'est important de tous agir de la même manière. On nous avait dit que c'était pour nous protéger, qu'il fallait qu'on montre aucun signe d'appartenance religieuse.
Protéger contre quoi ?
Contre nous-mêmes, pour éviter qu'il y ait du harcèlement par rapport à ça, etc.
Ah oui, c'est vrai. C'est les gens différents qui sont responsables du harcèlement dont ils sont victimes.
Voilà, c'est ça.
C'est une vision étrange.
Voilà. Mais bon, sur la rentrée, cette année, en fait, il y a plein de nouveautés. Et ces nouveautés, elles nous ont été présentées par l'actuel, j'espère plus pour très longtemps, ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Alors, Elisabeth Borne, ça fait 9 mois qu'elle est au ministère de l'Éducation nationale.
Avant ça, elle a été première ministre.
Avant ça, elle a été première ministre. Et après, elle a été triste à l'Assemblée nationale. Mais du coup,
je sais pas si elle était députée.
Il me semble que si, elle avait gagné
Ah, c'est possible.
Elle avait gagné, bah parce qu'il faut quand même ramener de l'argent à la maison quand on n'est pas Premier ministre, quand même. Mais du coup, en 9 mois, Elisabeth Borne, elle a promis des mesures, en fait, à l'appel pour la rentrée 2025. Y a très peu de personnes qui y ont cru, et pourtant, son gouvernement, il tient toujours bon pour, 7 jours, en fait. Mais bon, Elisabeth Borne, elle a franchi la ligne de la dernière semaine d'août et elle a dû tenir sa conférence de rentrée le 27, intitulée sobrement « Rentrée 2025-2026, l'école, notre avenir ». Celle-ci, elle se base sur 3 grands principes, une école exigeante, une école protectrice et une école émancipatrice. C'est comme ça, en fait, qu'on va voir les mesures proposées par ce rapport. Premièrement, dans l'école exigeante. Alors, la première mesure de cette école exigeante, c'est que c'est une école exigeante, mais pas trop. On propose maintenant les concours de l'enseignement du premier et second degré, donc de la maternelle au lycée, aux gens qui sont en troisième année de licence, alors qu'avant, il fallait avoir un master 1. Donc, on réduit un peu le niveau des profs. Comme d'habitude, il y a des changements de programme un peu partout, mais surtout, il y a l'ajout d'une épreuve de maths pour les premières générales, en plus du bac de français. Alors bon, c'est un tout petit truc, hein, quelques exercices sur une petite partie du programme de spécialité. Ce sera coefficient 2, c'est 2 points qu'on prend sur le grand oral de terminal. Mais quand même, ça rajoute une épreuve en maths pour des élèves qui n'ont pas fait l'aspect maths. Alors l'aspect maths, c'est une des spécialités les plus prises déjà, et la question qui se pose, et que j'ai pas vraiment réussi à avoir de réponse claire, c'est est-ce que les épreuves qui font spé mathématiques vont avoir cette épreuve-là ou pas?
Ah non, pardon, est-ce que les élèves qui font spé mathématiques vont avoir l'épreuve...
L'épreuve de maths pour tout le monde, même ceux qui font pas spé mathématiques.
Ah.
Parce que eux, ils ont... Bah, c'est évidemment une grosse avance sur ceux
Parce que tu pouvais passer ton bac sans avoir une épreuve de maths.
Tu pouvais passer ton bac sans faire de maths. Ils avaient supprimé les maths du tronc commun pendant un moment.
Ouais, bon, pour le coup, c'est pas forcément débile qu'ils leur mettent.
Après, ils l'ont rajouté dans le contrôle commun.
Ouais.
Et maintenant, ils rajoutent une épreuve.
Ok. Bon.
Bah, ce qui est, je trouve que c'est ni positif ni négatif. Il faut juste voir comment ça s'organisera, quoi.
Non, mais en fait, si tu remontes avant la réforme qu'il y avait eu avant, tout le monde faisait des maths. Ça faisait partie du tronc commun. Et que ça sorte du tronc commun, pour le coup, c'est pas forcément très malin. Surtout, voilà, quand on vit dans un monde qui est dirigé par l'informatique, les algorithmes, etc., savoir s'en sortir avec un certain bagage, et puis l'économie, et puis, enfin,
lire des pourcentages,
le bagage mathématique, voilà, surtout au niveau lycée, il peut encore être, enfin, à mon sens, hein, il peut encore être utile.
Bah, que ce soit même pour utiliser Excel, il faut... Enfin, c'est tout un tas de...
Oui, c'est ça, mais faire des pourcentages, savoir lire les prix
Oui, parce...
au supermarché, enfin...
C'est savoir faire des quotients, des produits en croix, etc. Voilà. C'est tout un tas de bagages. Là, les élèves ont passé une épreuve dessus. Moi, je dis pourquoi pas.
Oui.
Voilà. En point un peu positif, il y a un nouveau programme d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité, avec le point sexualité qui n'est abordé qu'à partir de la quatrième, avec pour le reste avant, donc avant la quatrième, de l'éducation au consentement, à l'empathie, au changement naturel dû à l'adolescence. C'est intéressant, c'est trois séances obligatoires qui sont rajoutées pour les, il me semble, les quatrièmes et les secondes. Mmh. C'est pas une mauvaise chose, hein. Le problème, c'est les moyens qui sont mis derrière. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a dans la loi, enfin dans la loi, les lycées sont censés être obligés de faire au minimum deux interventions par classe par an.
Sur quel sujet ?
Sur des sujets qui varient en fonction des niveaux. Ça peut être effectivement de l'éducation au changement du corps.
Tu dois avoir deux interventions extérieures dans...
Par an, soit sur de la santé, santé mentale, harcèlement, discrimination.
Okay.
Et il y a tout un panel de sujets qui doivent être normalement tous recouverts à la fin de la scolarité.
Ouais. Okay.
Le problème, c'est que déjà aujourd'hui, l'immense majorité des lycées n'arrivent pas à tenir ces deux séances par an. Pourquoi ? Parce qu'il faut trouver du personnel pour les faire. Ça peut pas être juste un prof qui connaît rien qui peut le faire. Surtout quand c'est des trucs médicaux. Hein. Mmh. Il faut trouver le temps pour le faire. Faut soit retirer des heures de cours. Mais bon, déjà qu'on finit jamais les programmes, si en plus on leur retire des heures de cours, les profs, ils râlent. Et puis... Bah juste, il n'y a pas les moyens.
Alors, donc, toi, t'en as déjà eu plusieurs.
J'en ai déjà eu plusieurs.
Est-ce que tu peux rassurer nos auditeurs et nous dire si, à un moment donné, à l'école primaire, au collège ou au lycée, comme on peut le lire sur Facebook, on vous a appris à vous masturber ?
Non, jamais. D'ailleurs, c'est même... Il me semble qu'on n'a pas abordé... de thèmes sur la sexualité avant la quatrième, la troisième. Au lycée, il y a comme thèmes qui ont été abordés la masturbation, il me semble que ça n'a jamais été là. La seule fois où on nous a parlé de pornographie, c'était pour nous dire que c'était de la merde. À raison, hein. Et si on nous a un peu parlé de sexualité, on a eu une intervention qui s'était assez mal passée d'ailleurs, sur tout ce qui était LGBT, discrimination par
et
rapport à ça.
Et ça, c'était quand à peu
Mais
près
ça, c'était en première, c'était cette année.
Donc c'était au lycée. Enfin, cette année, l'année dernière.
Oui.
ça y est, tu es passé
c'est
à
bon,
la grande
je suis
école.
Passé. Mais que ce soit en primaire, on a parlé notamment de harcèlement en fait. Au collège, on nous a juste parlé des changements de l'adolescence.
Ouais.
On nous a dit vous pourrez avoir des amoureux, etc. Mais même contraception.
Mais vous n'êtes pas rentré dans les détails.
Jamais. Ouais. Même contraception, on en a parlé pour la première fois, parce qu'on en a parlé en troisième. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce que en troisième, la majorité des filles étaient déjà très informées parce que la majorité, en fait, ont déjà eu leurs règles et du coup. Se sentent un peu obligés de s'informer sur tout ce qui est contraception. Et il y avait un assez gros décalage avec les mecs qui, pour plein, en fait, avaient aucune information, notamment sur ce qui est contraception féminine. Mmh. Où on a une petite séquence là-dessus, en seconde aussi, avec ma prof de SVT, qui était assez surprise du fait qu'en fait, chez les meufs, tout le monde était hyper informé, elle leur a rien appris, en fait. Mmh. Et chez les mecs, il y avait tout à faire. Et du coup, non, c'était un vrai décalage, c'était assez intéressant. Puis après, Elisabeth Borne a aussi parlé d'IA, on a un extrait.
Sur l'intelligence artificielle, devenue incontournable, il y a urgence. C'est une véritable révolution qui transforme notre société et qui touche directement notre façon d'enseigner et d'apprendre. Aujourd'hui, une grande majorité des élèves utilisent une IA générative sans toujours en comprendre les ressorts. Dès cette rentrée, pour les sensibiliser aux bonnes pratiques, comme aux limites de l'IA, des formations seront proposées à tous les collégiens et lycéens et rendues obligatoires pour les élèves de 4e, de 2e et de 1re année de CAP. Sur l'IA, l'écart ne doit pas se creuser entre les élèves et leurs professeurs. Les professeurs seront eux aussi formés massivement, et une IA sera mise à leur disposition dans les prochains mois.
C'était Elisabeth Borne, un discours d'Elisabeth Borne qui a été tenu quand ?
C'était le 27 août, c'était son discours de rentrée, de sa conférence de rentrée qui est faite chaque année par le ministère.
Donc mercredi dernier, on est à fond dans l'actualité.
Et exactement.
Elle nous parlait donc d'IA.
C'est ça, je cite le rapport, un cadre d'usage de l'intelligence artificielle.
Oula, quel rapport ?
Du rapport de presse sur de l'éducation nationale sur la rentrée qui en fait fait un peu le résumé de cette conférence qui dure 1h30 il me semble. Donc un cadre d'usage de l'intelligence artificielle en éducation sera proposé. Il n'y a pas d'autres précisions, mis à part que ce sera au lycée de gérer ça sans vrai accompagnement de l'éducation nationale. En gros, on dit aux profs de se démerder avec l'IA. Elisabeth Borne dit qu'il y aura une IA proposée aux professeurs. On n'a aucune idée de ce que ça veut dire et sur Internet, en tout cas, il n'y a aucune précision. Aujourd'hui... parler d'écart entre les élèves et les profs à l'IA, c'est le cas pour 2-3 profs qui sont vieux, mais en vrai, tous les autres profs, ils ont très très bien compris que parce que c'était l'IA, parce que enfin, ensuite, c'est pas très dur à comprendre. Ensuite, bon, il me semble qu'on a une émission sur l'IA ici.
Oui, il y a eu une émission en janvier, c'était l'émission 57 de Parlez-moi d'IA, qui abordait précisément ce sujet, c'était comment parler de l'IA aux lycéens, avec deux intervenants qui donnaient leur avis. Mais après, je sais pas si ça a été repris dans les dispositifs qui sont proposés par l'éducation nationale.
Ah. Pour le moment, il y a très peu de précisions et honnêtement, je pense que vu que Elisabeth Borne part normalement dans 7 jours, je pense qu'il n'y aura pas d'aboutissement en vrai.
Oui, et puis on se souvient de ce qui avait été fait précédemment sur l'informatique, sur Internet, etc., où finalement c'était assez limité. On a des outils grand public dont on regrette que l'éducation nationale n'apporte pas aux enfants une explication. Mais en même temps, comment en parler alors que c'est quelque chose de très actuel et qui n'a pas encore été intellectualisé, quoi.
Bah, c'est ça, c'est sûr.
Aujourd'hui, on ne sait pas à quoi sert l'IA. Enfin, il y a des applications concrètes, mais on les connaît pas toutes. Et si on essaie de faire la liste maintenant, et ben, la liste sera obsolète très rapidement.
Oui, et puis surtout, l'utilisation de l'IA, c'est quelque chose c'est un outil qui est tellement vaste que en faire une entre guillemets mauvaise utilisation, en fait, c'est très simple.
Oui, c'est ça. Et puis,
il n'y a pas de limitation.
Il suffit de suivre l'actualité un tout petit peu, mais même de loin sur ce sujet-là pour voir que les problèmes arrivent au fur et à mesure. On a du mal à les anticiper.
Voilà, et sur le dernier point de ce thème école exigeante, Madame Borne a trouvé intelligent de rappeler à quel point les lycéens pro étaient importants, en leur jetant un peu des fleurs, mais en oubliant assez convenablement que son ministère oublie régulièrement de les payer, malgré leurs stages qui sont censés être rémunérés. Chaque année, c'est le même problème. Il y a plein de lycéens qui finalement abandonnent parce que t'as 16 ans, tu veux faire quoi contre le ministère de l'Éducation nationale, même s'il te doit des sous. Bon, c'est assez dur. Le deuxième point abordé par Elisabeth Borne, c'est une école dite protectrice. Alors c'est vrai que l'année dernière, elle a été marquée par plusieurs attaques violentes dans des écoles aussi.
Des assassinats même.
Oui, des assassinats et puis juste une augmentation des agressions à proximité des écoles aussi, tout ça. Du coup, Elisabeth Borne, elle se félicite des quelques 300 armes blanches saisies lors de fouilles de sacs dans 6000 établissements. Par contre, aucune autre mesure concrète que le déploiement de 150 CPE dans l'ensemble du pays. Elle dit qu'elle va continuer à travailler main dans la main avec le ministère de l'Intérieur. En attendant, est-ce que c'est ça qui va permettre de réduire l'arrivée de ces événements horribles, j'allais dire le temps nous le dira.
Ben oui, on a tous peur que, bon, d'un côté, on peut pas laisser des attaques au couteau se perpétrer dans les établissements scolaires, mais d'un autre côté, c'est vrai que faire rentrer la police dans les établissements scolaires, ben c'est aussi faire rentrer une autre forme de violence et de défiance et une normalisation.
D'utilisation de la police sur des mineurs, quoi, quand même.
Ouais.
Voilà.
Mais en même temps, bon, bah, il y a vraiment des attaques au couteau, donc ouais. Je sais pas. Par contre, moi, bon, c'est vrai qu'il y avait eu les choux gras avec l'histoire des 300 armes blanches qui ont été saisies. 300 armes blanches dans 6000 établissements scolaires, sachant que c'est des lycées, donc dans lesquels il y a plusieurs centaines, voire un petit millier, de lycéens, mais en fonction de la où t'es, quoi. Mais bon, voilà, un lycée, c'est au moins 600 élèves, quoi. Donc finalement, 300 armes blanches sur 6000 établissements qui accueillent chacun 600 élèves.
Oui, oui.
Ça fait un ratio qui est assez faible.
Mais ce qui est pas choquant, parce que, en fait, des élèves qui ramènent à leur école, qui voilà. savent qu'elle va être fouillée, qui ramène.
Ah bah non, mais ils savaient pas que ça allait être fouillé.
Bah, c'est des trucs en général.
Ils l'ont pas annoncé en avance qu'ils allaient fouiller.
Enfin, ils l'ont pas annoncé en avance, mais en général, c'est surtout des choses qui s'étalent sur plusieurs jours.
Ouais.
Et pendant toute une semaine, c'est fouillé. Je pense qu'il y a assez peu d'élèves qui sont assez débiles pour amener des couteaux à l'école. Sans raison, quoi. Parce que je suis sûr que si tu ramènes ton couteau parce que tu dis, genre, je sais pas, t'as cours de cuisine, t'es les pros qui font cuisine. S'ils ont leur couteau, on leur fait, bah oui, vous pouvez passer. Donc, enfin, perso, ça me choque pas et je suis même un peu heureux qu'il y ait aussi peu d'élèves qui se trimballent avec des couteaux sur eux, quoi.
Oui, oui, oui.
Voilà.
C'est plutôt rassurant.
D'ailleurs, Elisabeth Borne, elle a parlé d'un plan tous unis contre la violence qui est censé être mis en place dès la rentrée, mais dont on trouve aucune trace non plus en ligne. Là aussi, on verra s'il y a vraiment quelque chose qui se met en place.
Ça, c'est vraiment l'annonce qui coûte pas cher, quoi.
Ah oui,
tout dire contre la violence. Ah bah oui, enfin, qui est pour la violence?
On va faire un truc génial, quoi.
Ouais, voilà. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y aura des moyens? Est-ce que il y aura de l'accompagnement? Est-ce que il y aura des pions complètement désemparés qui vont être à l'entrée des lycées et qui vont être en première ligne pour subir la violence? Ou est-ce qu'il y aura des gens formés? On sait pas.
Voilà. Contre le harcèlement scolaire, Elisabeth, elle dit vouloir continuer dans la lignée de ses prédécesseurs de 2023. C'est-à-dire en fait rien faire. Mais bon, j'imagine que ça a dû faire plaisir à Gabriel Attal de se faire féliciter par la personne qui occupe son poste. Mais c'est vrai que les chiffres du harcèlement, ils sont pas vraiment descendus en fait ces dernières années. La santé mentale est maintenant inscrite comme une priorité de l'éducation nationale. Donc bravo les anxieux, vous êtes une priorité pour la ministre. Non pas qu'elle fasse quoi que ce soit à ce propos, hein, y a pas de mise en place de vraiment plus de psys d'éducation nationale. Et même enfin les psys de l'éducation nationale, elles se concentrent uniquement sur l'école. Donc ouais, quand on va voir une psy d'éducation nationale, elle va nous parler de ce qui se passe en cours. C'est pas des vrais psychologues
ah oui, pour tant parler pis pour de toi vie. Si ça te prend la tête pendant tes cours parce que il se passe des trucs dans ta vie
bah c'est pas tellement ça, c'est juste qu'on va se focus sur principalement les cours. T'as ta vie personnelle, bah t'es censé aller en parler à une vraie psy. Il y a aussi la question des téléphones pour laquelle on a aussi un extrait.
Ah, on a un extrait sur les téléphones.
C'est pourquoi dès cette rentrée le dispositif portable en pause au collège entre pleinement en vigueur. Il s'agit de garantir qu'aucun collégien n'utilise son téléphone portable au sein de l'établissement. Cette mesure s'accompagne de la suspension de la mise à jour des outils numériques comme Pronote les soirs et le week-end.
Alors le dispositif portable en pause dans tous les collèges, c'est quelque chose qui avait été expérimenté. C'est peut-être pas débile d'empêcher les collégiens d'utiliser leur téléphone, mais bon, ça voudrait dire quoi ? Leur retirer au début des cours, les mettre dans des pochettes, bref, c'est assez complexe. Et puis même, je trouve ça assez dommage de priver des élèves d'un outil qui peut en fait être utile. Hein.
Bah ouais, moi je suis parent d'élèves et c'est vrai que, et en plus, je pense, tu vois, à ton frère là qui fait des allergies assez fortes. Mmh. J'aime bien qu'il puisse m'appeler, moi ça arrivait qu'il y ait des problèmes avec... les pions qui pensaient que il était en train de faire semblant, alors que non, il avait juste, je sais plus ce que c'était, ils avaient disséqué un des trucs auxquels il est allergique, et puis à force de le respirer et tout ça, petite crise allergie, qui devait prendre son médicament et tout, il refuse d'appeler les parents, finalement il m'a appelé avec son portable, ben ouais, si, c'était bien quoi.
Ouais, voilà, et puis...
je préfère qu'il le fasse, qu'il n'y ait pas un interdit, genre le téléphone. Et puis même, il y a aussi tout l'aspect... moi, je suis pas en élève, hein, mais quand ton élève, ton enfant, il rentre en sixième, là, je pense à tous les parents qui ont des gamins qui vont entrer en sixième, donc ils sont encore tout petits, c'est 12 ans, quoi. Ils sortent de l'école. T'aimes bien qu'ils aient le téléphone, en fait. Tu vois, ça fait un petit... Ils peuvent t'appeler.
Ouais, s'il se passe un truc, s'il y a un retard, tout ça.
Exactement, les premiers mois, c'est... dès que tu sors, tu m'appelles.
Voilà. Dans les solutions proposées que j'ai vues, il y avait des écoles qui ont mis en place une pochette. Tu rentres dans le collège, ton téléphone reste dans ton sac, mais dans une pochette.
Oui, enfin, peu importe. Ou sinon, ils veulent pas le voir. Tu sais, moi,
oui, mais en fait, c'est ce qu'ils ont fait.
Toi, c'est ce que t'avais,
c'est ce que j'avais. Si on le voit, on te le confisque.
C'est ça.
Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on change rien. Mais je les comprends en même temps de vouloir continuer comme
mais
avant.
Oui, mais bon, c'est aussi... Parce qu'il n'y avait pas de règles.
Oui.
Donc, pour éviter les problèmes, bon, voilà, les téléphones, on ne veut pas les voir. On sait que ça existe parce que, voilà, il y a toute la problématique des activités après l'école, tu vois. Il faut aller au sport, il faut aller au truc, au machin, donc bah, c'est bien de pouvoir appeler, pouvoir prévenir quand t'es en retard pour ton cours de musique, pour rendez-vous chez le médecin, etc. Donc, parce que t'es collégien, tu commences à avoir une vie... t'as des activités parascolaires, il faut et puis dans un monde dans lequel tout le monde a un téléphone portable, donc c'est difficile de pas en avoir, quoi.
Oui.
Mais par contre, au collège, bon, ça a pas forcément sa place.
Oui.
C'est pas sûr que ça rassure vraiment les élèves de plutôt que de passer la récré avec ses copains, même si on en a pas beaucoup, passer la récré avec sa maman au téléphone.
Oui, je pense pas que c'est forcément une mauvaise chose. Faudra voir comment ça va être mis en place, en fait.
Ouais, ça va ressembler à ce qui existe, hein. Il n'y aura pas de révolution. Faut pas s'attendre à une révolution.
Puis la deuxième mesure dont elle a parlé, Elisabeth Borne, c'est la clôture des espaces numériques de travail, ou ENT, qui ne pourront plus être mis à jour après 21 en semaine. En gros, jusque-là, on pouvait accéder du coup à un espèce de carnet. Carnet de devoirs sur internet qui pouvait être modifié à n'importe quelle heure par des professeurs. C'est-à-dire qu'on avait des professeurs qui se rappellent le dimanche soir à 20h que oh zut, j'ai oublié de mettre des devoirs pour le lendemain matin.
Pour mes 3e C.
Pour mes 3e C. Et du coup, ils mettaient ça et le lendemain matin, tu te fais engueuler parce qu'il les a rajoutés au dernier moment.
Là aussi, c'est pareil. Hein. Je suis parent d'élèves et je me souviens de la panique de s'apercevoir le dimanche en vérifiant que tout le monde ait bien fait ses devoirs, qu'il y avait un truc qu'on avait raté et puis en fait, on ne l'avait pas raté. C'est simplement le prof qui l'avait rajouté comme ça.
Voilà.
À son bon vouloir. Et là, bon, c'est bien de rajouter des règles.
Avec cette notion de droit à la déconnexion qui est pas fausse, de la même manière que votre patron, il a pas à vous appeler après 20h.
Mais c'est des bonnes résolutions. Voilà. Alors ça, t'es en train de devenir macroniste.
C'est pas que des mauvaises choses. Hein. Et d'ailleurs, on va aborder le dernier point, une école émancipatrice. Il y a que deux points en fait qui sortent du lot. Le reste, c'est des aides à l'orientation notamment, ce qui est en vrai loin d'être une mauvaise chose. Hein. Elisabeth Borne, elle dit, bon, elle veut que les élèves s'orientent dès la maternelle. Mais en vrai, aider les élèves à trouver des nouvelles pistes d'orientation professionnelle, outre le truc, soit tu deviens avocat, soit tu deviens médecin, c'est pas forcément une mauvaise chose.
Je te propose de faire une petite pause musicale et puis on continue à parler d'Elisabeth Borne après.
Très bien. On joue Summer's Over, donc dans le thème, de Jordana et TV Girl.
Isn't it cool how the summer fades?
Eh ben c'était sympathique comme musique, c'était quoi déjà ?
Summer's Over de Jordana et Tiffy Girl.
Un petit côté vinyle, là, des petits craquements.
Voilà, la fin de l'été, la rentrée. Voilà.
On est en train de parler d'Elisabeth Borne et puis de son discours de rentrée. Elle a dit qu'elle veut mettre 30 000 filles dans les cours de maths au lycée.
C'est ça, on a un petit extrait court qui parle d'elle qui parle de ça.
L'objectif, c'est d'avoir 5000 filles qui choisissent la spécialité maths en première et qui la gardent en terminale. Et l'objectif, c'est d'avoir progressivement 30 000 filles de plus à horizon 2030.
Alors, elle explique qu'elle va le faire comment, qu'elle va l'empire comment, cet objectif ?
Alors, en gros, c'est un plan qui s'appelle Filles et maths, qui, premièrement, forme les professeurs, notamment de sciences, à identifier et corriger leurs biais par rapport au genre. Et qui pose aussi cet objectif d'avoir 30 000 filles qui prennent et gardent l'aspect maths d'ici 2030. Il y a aussi d'autres objectifs qui sont fixés cette fois au niveau de l'éducation supérieure, scientifique. Ce qui est assez intéressant, les filles, elles ont en moyenne un niveau supérieur aux mecs en maths, mais elles sont bien moins représentées, elles représentent souvent moins de 20%.
Des classes de spé, ouais.
Des classes de pas de spé, enfin déjà de spé, elles représentent ça c'est à moitié dans les classes de spé, mais surtout au niveau supérieur, tout ce qui est supérieur scientifique en fait, où là il y a moins de 20% de filles souvent. Les prépas scientifiques, tout ça, les écoles d'ingé, c'est quelque chose qui est très très masculin en fait. Et d'ailleurs, on en reparlera sûrement dans un autre épisode parce que je trouve que c'est un sujet qui est intéressant. Et puis, finalement, le rapport se finit avec la question écologique. Je cite « Mettre en lumière les enjeux maritimes à l'occasion des 400 ans de la marine nationale ».
Ah bah oui, tiens, c'est de l'écologie, c'est la marine nationale.
Voilà, c'est assez drôle quand Le Monde révèle il n'y a pas très longtemps qu'on trouve des traces d'explosifs dans l'eau des robinets à proximité des réserves de munitions. Donc, que l'éducation nationale s'empare de la question écologique, je trouve que c'est pas plus mal. Il y a déjà le rôle d'éco-délégué qui est présent dans à peu près tous les établissements en France. Mais bon, c'est en général, c'est des rôles pour ceux qui ont perdu les élections de délégués et qui veulent quand même faire quelque chose. Voilà. Bon, pour conclure, on voit que la ministre, elle pensait pas rester aussi longtemps. Hein. Elle a promis plein de choses pendant son temps au gouvernement, en essayant de rester intéressante pour pouvoir continuer à passer à la télé, en fait. Sauf que maintenant, elle doit à peu près tenir ses promesses. Et du coup, elle essaye, bon, déjà, au maximum, de tout refiler au lycée. C'est-à-dire que la mise en place des trucs sur les téléphones, l'IA, le plan... pas le plan filles et maths, ça c'est national, mais quasiment tout, elle demande de le mettre en place aux écoles pour qu'elles se débrouillent et que, en fait, elles fassent un peu comme elles peuvent et avec les moyens du bord, quoi. Mmh. Et puis, en fait, je pense qu'elle se dit que, de toute façon, elle part dans une semaine, quoi. Parce qu'il y a le vote de confiance au gouvernement Bayrou, où jusque-là, on pense qu'il va pas être voté.
Il y a des chances qu'elle soit en train de faire ses cartons, ouais.
Voilà. Ce qui va être intéressant, c'est du coup la manière dont les écoles vont le mettre en place, et on va voir quels lycées vont juste ignorer les consignes, que ce soit en bien ou pas. Hein. Si c'est ignorer l'IA et continuer à faire comme avant et faire comme si c'était quelque chose auquel il faut absolument pas toucher, c'est l'enfer. Ou si c'est ignorer tous ces projets d'éducation, d'égalité filles-garçons, quoi.
Eh ben, c'est un résumé très en profondeur et très détaillé que tu nous as fait de ce rapport et puis du discours de rentrée qu'a fait Elisabeth Borne dans la foulée quand elle a présenté à la presse.
Oui, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout comment ça va être mis en place dans mon lycée. Hein. Mais moi, ouais. Je vois ça d'ici 3-4 jours... à ma rentrée
on espère que tu nous le raconteras, que tu continueras ouvre là pour cette nouvelle saison.
Pour le coup je vais essayer, je pense qu'on va continuer l'émission au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire prochaine, donc ça va nous faire une dizaine d'émissions en fait. Mm-hmm. Jusque là
après, à la fin de l'année il y a
mon bac, mon vrai bac cette fois, pas seulement le bac de français. Ça vous allez un peu le suivre et puis après on verra.
J'espère que tu nous parleras un petit peu effectivement des différentes matières, comment toi et tes camarades vous les abordez et vous préparez, quoi.
C'est ça, la manière dont c'est organisé. J'ai aussi essayé de parler de mes projets par rapport au lycée, parce que spoiler alerte, j'ai un espèce de petit projet de syndicat.
Bon, ça, lycée, on va essayer de le mettre en place avant d'en parler. C'est pas.
Voilà. Mais du coup, il y a plein de sujets, et même ne serait-ce que dans ce rapport, qui vont être mis en place au fil de l'année, qui vont sûrement nous donner pas mal de contenu, de quoi parler, quoi. Donc, voilà. Moi, je suis assez content de l'émission jusque-là. J'ai essayé de m'améliorer sur certains points.
C'est vrai, il y a des émissions comme ça qui t'ont marqué sur les... Bah là, on en a la septième, là. Donc, sur les six premières.
Sur les six premières... en tête, j'ai déjà la première où on avait parlé... Il me semble que c'était le premier sujet de la première, c'était les insultes.
Ouais, trop bien.
Avec notamment le mot « Tana ». Et puis une interview.
Vous pouvez toujours écouter en podcast si vous voulez.
Voilà.
Première émission d'Ouvre là.
Je trouve que je me suis quand même pas mal amélioré, ne serait-ce que dans la manière dont je présente certains trucs, etc.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette émission ?
Bon, déjà, j'aime beaucoup parler. Je pense que personne ne serait-ce qu'en écoutant l'émission. Mais je suis dans la radio et puis dans les médias en général. La voix des jeunes est très peu écoutée, je trouve.
Ouais.
Et je trouve que c'est intéressant de donner une place pour des jeunes parler. Et c'est pour ça que j'essaye et je vais essayer au maximum d'interviewer d'autres jeunes que moi.
Ouais.
Et puis
peut-être sur des sujets de fond aussi, parce que souvent la jeunesse, on la voit comme... Enfin, moi, c'est comme ça que je la vois présentée. Souvent, c'est caricaturé comme des gens superficiels.
Oui, c'est ça. Et sur des sujets, pour le coup, vraiment profonds et de société, en fait. Mm-hmm. Parce que les jeunes, surtout les lycéens, en fait, ils existent déjà dans la société et ils ont déjà des avis là-dessus.
Qu'est-ce que tu dirais de parce qu'on a la possibilité de le faire dans les studios ici à Cause Commune, de rendre l'émission plus participative et d'ouvrir la ligne téléphonique par exemple?
Bah pour le coup ce sera avec plaisir, ensuite ouais. Il faudrait trouver un cadre dans lequel c'est pertinent.
Mais dans le cadre de l'émission, voilà, si jamais là on avait eu Elisabeth Borne qui voulait nous appeler pour nous dire qu'on avait mal compris.
Bah écoute, si ce serait avec grand plaisir si Elisabeth Borne se mettait à écouter Cause Commune, je pense que ça lui apprendrait 2-3 trucs.
Alors si Elisabeth Borne veut, ou quelqu'un d'autre, peut-être qu'il y a des gens plus intéressants qu'Elisabeth Borne qui souhaitent participer à Radio Cause Commune ou qui veulent nous rencontrer, ou je sais pas si tu seras là, mais peut-être rencontrer les animateurs de l'émission, on fait une soirée studio ouverte tous les premiers vendredis du mois. Finalement c'est comme ça que...
Que ouvre la aînée, on m'a je commençais un peu parler des thèmes qui m'intéressaient, on m'a proposé une émission.
Ouais.
Et c'est fait très naturellement et je pense que je suis pas le seul à avoir des trucs intéressants à dire. Ce sera avec plaisir de vous accueillir en fait.
Et ben la prochaine soirée studio ouvert dans les studios de Cause Commune, c'est vendredi prochain, le 5 septembre, pour la rentrée.
Voilà.
Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Merci beaucoup Solal.
Bah, merci à toi. Puis ouvrez-la. Hein.
Voilà, merci à Elias qui a la régie aujourd'hui.
Qui a la régie.
Et on se retrouve le mois prochain pour Ouvre-la, un magazine d'actualité présenté par un lycéen.